Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans « Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours », Raphaël Doane propose un essai d'histoire comparé consacré à une notion omniprésente dans les débats sur l'immigration, mais souvent employée sans définition précise. L'ouvrage examine l'assimilation comme l'exigence faite à l'étranger de devenir semblable au groupe majoritaire, au-delà de la seule obtention de droits ou de la participation à la vie collective. Agrégé de lettres classiques, l'auteur suit cette idée sur une longue durée, de la Grèce et de Rome au monde arabe, français, japonais et américain. Son objectif n'est pas de livrer une simple chronique nationale du modèle français, mais de montrer que les politiques et imaginaires assimilateurs ont circulé dans des sociétés, des empires et des pays d'immigration très différents. Cette perspective historique entend déplacer les controverses contemporaines, elle interroge les conditions auxquelles une communauté accueille l'étranger, fabrique du commun et définit les limites de l'appartenance. Le livre défend ainsi une lecture nettement universaliste de l'assimilation, tout en exposant les tensions et contraintes inhérentes à cette ambition. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, définir l'assimilation au-delà des confusions avec intégration et acculturation. L'un des apports centraux de l'essai consiste à clarifier un vocabulaire fréquemment brouillé. Pour Raphaël Doane, l'assimilation ne se réduit ni à l'intégration ni à l'acculturation. L'intégration désigne la participation d'un individu à la société d'accueil par les droits, le travail, l'école ou la vie civique, sans impliquer nécessairement l'abandon de ses usages particuliers. L'acculturation renvoie plus largement aux transformations culturelles qui résultent du contact entre groupes. L'assimilation, elle, suppose une attente plus forte. L'étranger est appelé à devenir un semblable dans les mœurs, les références collectives et les pratiques ordinaires, et pas seulement un membre juridiquement admis. Cette distinction est décisive pour l'enquête historique du livre. Elle empêche de qualifier indistinctement d'assimilation toute coexistence, toute conversion juridique ou toute influence culturelle. Elle permet aussi de comprendre pourquoi le terme suscite des objections. Il touche aux frontières entre une culture commune jugée nécessaire à la cohésion et la préservation de différences collectives. Doane ne traite donc pas l'assimilation comme un slogan contemporain, mais comme une pratique sociale et politique dotée de critères exigeants. En posant cette définition au départ, l'ouvrage donne au lecteur des instruments pour évaluer les débats actuels avec davantage de précision, demander l'égalité des droits, encourager l'apprentissage d'une langue commune ou réclamer une convergence complète des modes de vie ne relève pas exactement du même projet. Deuxièmement, une histoire mondiale qui retire à la France le monopole du modèle assimilateur, le livre se distingue d'abord par son échelle. Au lieu de faire de l'assimilation une singularité française, Raphaël Doane en reconstruit les formes dans des espaces et des périodes éloignées. Grèce antique, Empire romain, monde arabo-musulman, France, Japon et États-Unis. Cette géographie ne prétend pas effacer les différences entre civilisations. Elle sert au contraire à comparer des réponses historiques à un problème récurrent: comment incorporer, hiérarchiser ou tenir à distance des populations perçues comme étrangères. L'intérêt de cette longue durée est de mettre en cause deux idées simplificatrices. La première voudrait que l'assimilation soit une invention récente, née des États-nations modernes et des migrations contemporaines. La seconde l'identifierait mécaniquement à la tradition républicaine française. Les exemples retenus montrent que des empires comme des nations ont pu chercher à produire de la ressemblance, selon des modalités très diverses: par l'extension d'un statut, par l'adoption de normes culturelles ou par l'adhésion à un ordre politique et moral commun. La comparaison oblige également à distinguer le principe et ses applications. Une même aspiration assimilatrice peut revêtir des degrés de contraintes très différents selon les institutions, les rapports de force et la définition locale de l'étranger. Le panorama proposé n'abolit donc pas les conflits contemporains. Il les replace dans une histoire plus vaste des contacts entre groupes, des mobilités et de la fabrication des appartenances collectives. Troisièmement, l'assimilation interprétée comme une logique d'ouverture universaliste. La thèse directrice de Raphaël Doane est volontairement à rebours d'une représentation courante: l'assimilation ne serait pas, par essence, le signe d'une société fermée sur une identité immuable. Dans son interprétation historique, elle correspond plutôt à une logique d'ouverture conditionnelle. Une collectivité assimilatrice peut accueillir l'étranger parce qu'elle estime qu'il est susceptible de devenir son égal ou son semblable. Le groupe ne pose pas nécessairement l'origine comme une barrière définitive. Il rend l'appartenance possible, à condition d'une transformation et d'une adhésion à des normes communes. C'est ici que l'auteur associe assimilation et universalisme. L'universalisme affirme qu'une place peut être reconnue à des individus venus d'ailleurs, non en tant que représentants permanents de groupes séparés, mais en tant que membres d'un monde commun. Cette logique diffère d'un système où l'altérité serait tenue pour indépassable, où l'origine déterminerait durablement les droits et la position sociale, selon l'argument rapporté par l'ouvrage. Le rejet de l'assimilabilité peut alors rejoindre des raisonnements racistes ou xénophobes si l'étranger est déclaré incapable de devenir semblable. Son exclusion devient plus facile à justifier. Cette proposition ne gomme pas le caractère potentiellement contraignant de l'assimilation. Elle déplace toutefois l'analyse vers une question plus substantielle. Une société veut-elle rendre l'égalité et l'appartenance accessibles au-delà de la naissance? Le mérite du livre est de faire apparaître l'ambivalence du modèle, entre promesses d'inclusion et demande de conformité. Quatrièmement, les empires et les pays d'immigration comme laboratoire de la fabrication du commun, en parcourant des empires anciens et des États modernes. L'essai examine des configurations politiques qui ne se ressemblent pas, mais qui affrontent toute l'hétérogénéité des populations. Les empires gèrent de vastes territoires, des langues et des statuts multiples. Les pays d'immigration doivent articuler l'arrivée de nouveaux venus avec une définition préexistante de la nation. Ces situations permettent d'observer que l'assimilation ne fonctionne jamais dans le vide, elle dépend d'institutions, de règles d'accès au corps politique et de représentation collective de la culture légitime. Les chapitres consacrés à la Grèce, à Rome, au monde arabe, à la France, au Japon et aux États-Unis donnent ainsi une matérialité comparative à la question. Le lecteur est invité à regarder non une opposition abstraite entre pour et contre l'assimilation, mais des manières distinctes d'organiser la relation entre majorité et étranger. L'enjeu est toujours double définir ce qui doit être partagé et déterminer qui peut accéder à cette communauté. Cette approche rend visible une tension durable. Plus une société fixe de critères culturels précis pour devenir semblable, plus elle peut favoriser l'unification des pratiques tout en rendant l'entrée difficile ou asymétrique. À l'inverse, une appartenance plus souple peut élargir l'inclusion sans garantir la même intensité de référence commune. Doane ne fournit pas une recette institutionnelle transposable. Son enquête montre pourquoi les débats sur l'immigration portent inévitablement sur des conceptions concurrentes de la citoyenneté, de la nation et de la culture partagée. En dernier lieu, éclairer les controverses contemporaines sans réduire l'histoire à un plaidoyer immédiat, le livre prend pour point de départ des polémiques actuelles. Mais son principal geste consiste à leur imposer le détour de l'histoire. Dans l'espace public, l'assimilation est souvent présentée soit comme une violence uniformisante, soit comme une solution évidente à tous les problèmes de cohésion. Raphaël Doane invite à dépasser cette alternative en rappelant que le concept possède une histoire longue, des usages variés et des effets qui dépendent toujours des contextes. Cette mise à distance est particulièrement utile face aux emplois imprécis du mot dans les débats médiatiques. L'ouvrage assume néanmoins une orientation, il réhabilite l'idée que l'assimilation peut relever d'un idéal d'ouverture plutôt que d'un repli identitaire. Cette position donne de la cohérence au parcours comparatif. Mais elle expose aussi le livre à une limite classique des synthèses engagées, certains lecteurs souhaiteront une exploration plus approfondie des formes de domination, de ségrégation ou d'assimilation imposée qui ont accompagné certaines expériences historiques. Des recensions ont notamment signalé des développements parfois rapides et l'absence de traitement détaillé de certains épisodes américains. Ces réserves n'annulent pas la valeur de l'entreprise. Elles précisent son statut, il s'agit d'une vaste introduction argumentée à l'histoire de l'assimilation. Non d'une encyclopédie exhaustive de toutes ces violences ou de toutes ces variantes. Le livre est surtout fécond lorsqu'il pousse le lecteur à distinguer, dans chaque controverse, l'objectif d'égalité, les moyens d'inclusion et le degré de conformité culturelle réellement demandés. En conclusion, le rêve de l'assimilation s'adresse aux lecteurs qui veulent aborder les questions d'immigration, d'identité nationale et de multiculturalisme autrement qu'à travers les seules oppositions du débat immédiat. Il intéressera particulièrement les étudiants en histoire, sciences politiques ou sciences sociales, mais demeure accessible aux citoyens désireux de mieux distinguer assimilation, intégration et acculturation. Son bénéfice intellectuel est d'abord méthodologique, il apprend à ne pas employer ces termes comme des équivalents et à rapporter chaque modèle d'accueil à ses conditions politiques et culturelles concrètes. L'ouvrage se démarque des essais centrés exclusivement sur la France ou sur l'actualité législative. En reliant la Grèce, Rome, le monde arabe, la France, le Japon et les États-Unis, Raphaël Doane construit une histoire comparée rare en langue française sur ce sujet. Cette ampleur rend visible la persistance de la question de l'étranger et évite de présenter les tensions présentes comme totalement inédites. Sa singularité tient également à sa thèse « L'assimilation y est lue comme une promesse d'inclusion universaliste, malgré les contraintes qu'elle peut imposer », plutôt que comme le simple envers du pluralisme culturel. Le lecteur ne trouvera pas un traité exhaustif de toutes les politiques discriminatoires ni une solution prête à l'emploi. Il trouvera en revanche un cadre historique solide pour évaluer les mots, les présupposés et les conséquences des positions en présent. C'est cette combinaison d'érudition synthétique, de clarté conceptuelle et de comparaison internationale qui fait l'intérêt durable du livre. Si vous souhaitez soutenir Raphaël Doan, vous pouvez acheter livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.